Ici, la voix du salut. Chers auditeurs, bonjour. Les Églises du Christ de Belgique, de France et de Suisse vous saluent. Très souvent, les auditeurs de la Voix du Salut écrivent pour poser des questions d'ordre spirituel et nous allons en partager quelques-unes ensemble, si vous le voulez bien. Quand l'autorité de l'Ancienne Alliance ou de l'Ancien Testament a-t-elle cessé? Elle a été clouée à la croix par le corps de Jésus, selon Colossiens 2,14. Quand la Nouvelle Alliance ou Nouveau Testament entra-t-il en vigueur? Il entra en vigueur environ 53 jours après la crucifixion du Christ, le jour de la première Pentecôte après la résurrection du Christ. Le nouveau ne pouvait en effet coexister avec l'ancien, car il était pratiquement impossible de les observer tous les deux. Hébreux 19 nous dit de Christ qu'il abolit ainsi la première chose, c'est-à-dire la première alliance, pour établir la seconde, c'est-à-dire la nouvelle alliance ou nouveau testament. Pourquoi la nouvelle alliance ne pourrait-elle prendre cours avant la mort de Jésus-Christ? Tout simplement parce que la Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. De plus, continuent les Écritures, car là où il y a un testament, c'est-à-dire une alliance, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Tout ce que Christ a fait sur terre était en parfait accord avec l'Ancien Testament, car la nouvelle alliance, sur laquelle nous vivons maintenant, n'avait pas encore pris cours, et pour cause, puisqu'il n'avait pas encore été scellé par le sang du Fils de Dieu, le testateur. La nouvelle alliance prit-elle sa valeur immédiatement après que le sang de Christ fut répandu? Non, car le sang répandu devait tout d'abord être offert dans le Saint des Saints, le ciel, par Christ lui-même comme souverain sacrificateur de Dieu, pour être ratifié ou accepté par son Père. L'ascension de Christ vers le Saint des Saints n'a eu lieu que 43 jours après sa mort. 10 jours après son ascension, l'offrande fut faite au ciel, et par le jour de la Pentecôte, il était ratifié ou accepté, puisque l'apôtre Pierre, parlant sous l'inspiration divine, annonça que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur au Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les conséquences de cette ratification due au sang de Christ fut la rémission des péchés. Le Fils de Dieu devait devenir souverain sacrificateur avant de pouvoir offrir son sang pour les péchés du monde. Or, tant qu'il était sur terre, il ne pouvait devenir ce sacrificateur. L'épistolier aux Hébreux le dit bien, s'il était sur la terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque ce sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il monta au ciel, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Lorsqu'il entra au ciel et que par là il fut déclaré souverain sacrificateur, Christ, occupant cette fonction, pouvait et le fit entrer en présence de Dieu avec son propre sang et le lui offrir. Le livre des Hébreux déclare, il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Ce sang ayant été accepté comme pardon pour les péchés sur terre, le Saint-Esprit, parlant par l'apôtre Paul, le jour de la Pentecôte, dit à la foule présente qui croyait maintenant au Fils de Dieu, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » La Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, entra par conséquent en vigueur le jour de la Pentecôte. Pourquoi l'offre de la repentance et de la rémission des péchés ne fut-elle pas faite au début du ministère public de Jésus-Christ, c'est-à-dire 3 ans et demi avant le jour de la Pentecôte? tout simplement parce que, comme nous venons de le dire, il ne pouvait être question de rémission des péchés avant que Christ ne répande son sang sur la croix. Si le pardon des péchés avait été possible avant le jour de la Pentecôte, cela aurait contredit un ordre de Jésus lui-même, qui dit « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » L'offre de la rémission des péchés ne pouvait donc être faite avant le jour de la Pentecôte. On peut d'ailleurs constater, en lisant le Nouveau Testament, qu'aucun apôtre n'a jamais prêché la résurrection du Fils de Dieu avant ce fameux jour. C'est seulement lors de la Pentecôte que Pierre, pour la première fois dans l'histoire humaine, offrit la repentance et le pardon des péchés au nom du Sauveur dont le sang avait été répandu pour le salut de l'humanité tout entière. Comme Jésus l'avait ordonné, cette proposition commença par Jérusalem, et nous pourrons être convaincus qu'elle ne fut jamais faite plus tôt. Le peuple se repentit et les péchés furent remis lorsque Jésus était encore sur terre. Luc chapitre 13, verset 3 et Matthieu 9, 2 le prouvent. Mais comment expliquer cela? Vous pouvez trouver le même genre de preuve lorsque le peuple de Ninive se repentit après la prédication de Jonas. Matthieu 12, 41 dit que les hommes de Ninive se repentirent à la prédication de Jonas. Cependant, il faut noter que chaque pardon des péchés accordé avant la mort de Jésus était purement individuel et temporaire. Le but était essentiellement de démontrer que le Fils de Dieu possédait le pouvoir de pardonner les péchés selon sa volonté. C'est également grâce à cette volonté qu'il pouvait assouer, par exemple, libérer quelqu'un. Il n'en demeure pas moins vrai que le système de repentance et de remission des péchés caractérisait la nouvelle alliance que débuta que dans la ville de Jérusalem au jour de la Pentecôte. Notre sacrificateur ne pouvait rien offrir pour le péché sans son propre sang. Nous l'avons déjà vu, Hébreux 9, 12 est formel. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le Sauveur ne pouvait offrir ce sang que dans le lieu très saint, lui-même, dans le ciel. Tout ceci devait arriver après sa mort, sa résurrection, son ascension, et le jour de la Pentecôte constitua la première occasion de l'annoncer aux hommes. Jésus-Christ vécut et mourut sous la loi de Moïse, système sur lequel aucune justification n'était possible. C'est ce qu'exprime clairement deux passages du Nouveau Testament. Tout d'abord, Galates 3, 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Ensuite, Romains 3, 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Jésus a aboli le système de la loi de Moïse par sa mort sur la croix et offrit la justification, c'est-à-dire la rémission des péchés, le jour de la Pentecôte qui suivit. Autre question. Jésus-Christ n'a-t-il pas donné à l'apôtre Pierre les clés du royaume des cieux environ un an avant sa mort? Ce dernier n'utilisa-t-il pas ses clés sur le champ? Le Seigneur fit de Pierre un porteur de clés pour quand le royaume serait prêt à être ouvert. Et ces clés ne furent toutefois utilisé qu'après la résurrection de Christ, puisqu'il donna comme instruction à ses apôtres de ne divulguer sa qualité de Messie à personne avant sa résurrection. Et deux versets bibliques nous le démontrent. Marc 8, 30, Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Marc 9, 9, Jésus le recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils gardèrent strictement le silence jusqu'au fameux jour de la Pentecôte, lorsqu'ils annoncèrent pour la première fois la résurrection du Christ. Qu'étaient ces clés et à quoi devaient-elles servir? Une clé sert à entrer dans un bâtiment, ou ouvrir quelque chose qui est protégé par une serrure ou par un cadenas. Dans le cas qui nous occupe, ces clés devaient ouvrir le royaume des cieux ou l'Église aux êtres humains, c'est-à-dire à tous ceux qui s'étaient préparés à y entrer. Cette ouverture fut effectuée par l'apôtre Pierre, le jour de la Pentecôte. Et c'est lorsqu'il répondit à la foule qui lui demandait « Que ferons-nous en leur donnant la marche à suivre pour devenir citoyens du royaume. C'est en leur disant ce qu'ils devaient faire qu'il leur ouvrit les portes du royaume de Dieu. Avant la prédication de Pierre, personne ne savait comment entrer dans le royaume. C'est donc à ce moment-là que Pierre leur a ouvert ou révélé l'entrée dans le royaume divin. Pour ce faire, il utilisa donc les clés qui lui avaient été confiées par son maître, le Fils de Dieu. Le royaume des cieux et l'Église du Christ sont-ils une seule et même chose? Oui, il s'agit de la même institution présentée sous différents aspects. L'un d'entre eux, le royaume, avec ses sujets. L'autre est celui d'une Église composée de membres. Mais dans les deux cas, il s'agit des mêmes personnes. En Matthieu 16, 18 à 19, Jésus affirme « Je bâtirai mon Église ». Puis, quelques instants plus tard, il dit à Pierre « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Lorsque Pierre ouvrit le royaume, il révéla en même temps l'accès à l'Église. Lorsque les gens à qui il s'était adressé obéirent, le Seigneur les ajouta à son Église. On ne peut donc être dans l'un sans être dans l'autre. Vu sous l'angle du royaume, les chrétiens sont des citoyens. Par contre, ceux qui font partie de l'Église, tous les citoyens sont des membres. Mais il n'empêche que les citoyens ou membres sont les mêmes personnes, des chrétiens qui font partie de la famille de Dieu. Maintenant, entre-t-on dans le royaume et dans l'Église suivant les mêmes étapes de la foi obéissante? Oui. Mais les citoyens du royaume des ténèbres entrent dans le royaume des cieux, ou royaume de Dieu, par un procédé appelé translation ou transfert, c'est-à-dire en passant d'un état spirituel dans un autre. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 13 nous explique cela très simplement. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Lorsqu'ils obéissent à l'Évangile, ils sont translatés, transférés dans le royaume de Dieu et ajoutés à l'Église. La même action amène le même résultat, une étroite communion avec Dieu. Ils deviennent des citoyens de l'un et des membres de l'autre, par les mêmes étapes, par les mêmes actes d'obéissance. Nous comprenons donc que les termes Église et royaume désignent la même institution. On entre dans le royaume par une naissance d'eau et d'esprit, et on devient membre de l'Église en étant baptisé dans un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême d'eau est donc essentiel pour faire partie à la fois du royaume et de l'Église. Dernière question. L'homme n'entre-t-il pas dans l'Église par le baptême? Entre-t-il dans le royaume de la même manière? Mais bien sûr. Paul ne dit-il pas en 1 Corinthiens, chapitre 12 et verset 13, « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Lors de sa conversation avec Nicodème, Jésus lui dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'eau est utilisée uniquement pour le baptême dans le plan du salut. Nous avons été transférés dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. La rédemption, le pardon des péchés, s'effectue en Christ. Et Romains 6, 3 et Galates 3, 27 nous disent tous deux que nous sommes baptisés en Christ. Par conséquent, nous sommes baptisés dans le royaume et dans l'Église, selon un même et seul acte d'obéissance. Venez d'entendre une émission de la Voix du Salut. Au micro, Jacques Marchal. Écrivez-moi pour me faire part de vos idées ou même pour me poser des questions d'ordre spirituel et je vous répondrai personnellement. Un cours biblique personnalisé et entièrement gratuit est disponible sur simple demande. Vous y découvrirez des trésors spirituels. Pourquoi ne pas vous y inscrire? Si vous désirez recevoir gratuitement le texte de cette émission, écrivez simplement aux adresses suivantes. Si vous habitez la France ou la Suisse, La Voix du Salut, boîte postale 260-51-059, Reims-Cedex, je répète, boîte postale 260-51-059, 51 059 Reims CEDEX pour la Belgique et ailleurs. La Voix du Salut, boîte postale 35 5000 Namur. Je répète, boîte postale 35 5000 Namur. J'espère vous retrouver lundi prochain à l'écoute à 5h15.